Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Vous connaissez ma mission. Chaque jour, vous montrez que la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Gros plan aujourd'hui sur des indispensables quand on est une femme, les protections hygiéniques. Et vous allez voir que oui, c'est un secteur qui lui aussi est en train de se réinventer. Elle existe depuis 1863, se définit comme une start-up du cognac, la Maison Camus, toujours familiale, et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis des chauffeurs pour transporter vos enfants, c'est Upways, c'est la solution imaginée par des mamans. C'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend. Je suis sûre que vous allez jeter un œil dans vos tiroirs pendant cette émission, car c'est aux règles que nous nous intéressons aujourd'hui et aux protections qui existent pour nous, Anissa.
Oui, et on innove aussi dans ce secteur, Raphaël. Alors si vous avez des questions à poser aux invités de Raphaël Duchemin jusqu'à 14h, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également témoigner et réagir au 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
Oui, car les alertes sanitaires ont été nombreuses ces dernières années concernant les tampons ou les serviettes que nous utilisons. Mais les choses évoluent sous l'impulsion de femmes et d'hommes qui ont envie que les choses changent. Ils sont avec nous aujourd'hui pour les accueillir. À mes côtés, Elisabeth Assayag est là.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et Thomas Huriez est notre coach aujourd'hui, le fondateur des Jeans 1083. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Avez-vous déjà regardé de quoi était composé le paquet de tampons que vous achetez en grande surface? C'est justement après l'alerte lancée, souvenez-vous, en 2016, que deux amis ont eu en quelque sorte ce réflexe. Bonjour Colline Mazera. Bonjour, ne touchez pas vos boutons, c'est oui. Nous qui nous en occupons.
Très bien,
on gère tout, vous n'êtes là
parfait.
Que pour nous parler de Jo, puisque oui. Vous avez monté Jo. Alors ça s'écrit J-H-O parce que c'est juste et honnête,
tout
c'est ça.
Fait.
Vous êtes basée à Nantes et il y a 3 ans, quand commencent à sortir finalement les tout premiers articles sur la toxicité de nos protections intimes, vous avez en quelque sorte une prise de conscience? C'est comme ça que ça se passe?
C'est une rencontre en fait. Donc on est deux entrepreneuses, donc Dorothée Barthes, mon associée. Et c'est vraiment une rencontre avec une personne qui fondait un incubateur à Nantes, donc on est basé à Nantes, qui nous a parlé de ce concept qui existe aux États-Unis, des protections hygiéniques en coton bio livrées directement chez les femmes. Coton bio, sain, produit sain. Et donc nous on s'est dit ok, c'est vrai qu'il y a eu ce scandale. Dorothée était journaliste santé et elle s'est rendue compte que dans tous les sujets qu'elle a traités, à aucun moment ils ont songé à parler des tampons alors qu'elles avaient traité tous les sujets dans la rédaction. Donc interrogation en disant gros tabou sur le sujet. Moi j'étais passée au bio dans toute ma maison, à aucun moment j'avais songé à mes protections hygiéniques. Et donc là on s'est dit ok, on y va.
Donc vous vous dites on y va, mais vous faites quoi? Vous vous renseignez sur ce qui existe déjà? Vous essayez de voir comment ça se passe dans les autres pays pour arriver à fabriquer votre propre boîte avec à l'intérieur des protections pour les femmes?
Oui, alors déjà on plaque tout, toutes les deux.
Ah oui, c'est radical.
Ça. Radical. Et en fait, le premier challenge était de trouver le fabricant, parce qu'il y a très peu de fabricants qui font des produits sains en coton bio certifié. Donc on a réussi à trouver un super fabricant, c'était vraiment le premier challenge.
Fabricant en France ou en Europe?
En Europe. En Europe, un super fabricant qui fait des produits certifiés. Donc vraiment, c'était la première étape. Dès qu'on a trouvé le fabricant, en fait, on a toujours gardé la cliente au centre, parce que nous-mêmes étions la cliente cible. Mais et ça nous tenait à cœur de vraiment garder, ok, toutes les femmes ont des choix différents de protection hygiénique. On voulait que ça convienne aux femmes, enfin des produits sains, mais aussi des produits qui leur conviennent, livrés à la maison. Voilà.
Et c'est ça qui a été le plus dur, trouver justement le bon fabricant pour c'était avoir les... Les bonnes bases, j'ai envie de dire.
Exactement, oui. Après, c'était vraiment de l'étude de clients. Enfin, c'était vraiment naturel, mais c'était vraiment le fabricant qui était compliqué.
Alors, vous avez voulu offrir toute la gamme, c'est-à-dire les tampons, on l'a dit, les serviettes, les petites protections aussi. Et vous vous lancez en 2017. Vous commencez à vendre, c'est tout de suite un succès. Comment ça se passe? Comment c'est accueilli?
On a travaillé dessus pendant plusieurs mois et en avril 2018, le 9 avril 2018, on s'est lancé donc effectivement avec toute la gamme. Et en fait, on avait fait un petit teasing avant sur jo.fr. En fait, chaque personne était invitée à venir s'inscrire, inscrire son email. Si elle en parlait à des amis, elle-même gagnait des points. Et en fait, il y avait un petit jeu comme ça. Plus on invitait d'amis, plus on gagnait des cadeaux. Et donc, grâce à ça, le jour où on s'est lancé, on a réussi à avoir une super base cliente. Et donc, dès le début, en fait, on a fait des très bons chiffres. Donc, super surprise, super contente. Et grâce à ça, on a pu bien démarrer.
Que dit notre coach de cette aventure?
Eh bien, j'ai plusieurs questions, parce que je trouve qu'il y a plus de ruptures qu'en fait elle ne le présente pour l'instant, c'est-à-dire que le modèle de distribution est innovant aussi, c'est des abonnements. Ouais. J'ai trouvé très intéressant aussi la démarche d'aide que vous proposez, je trouve que ça serait intéressant d'en dire un mot. Et j'avais surtout une question, ça veut dire quoi, Jo ?
Alors Jo, c'est J-H-O comme juste et honnête. Alors honnête, c'est parce qu'enfin, on est transparent sur la composition des produits. En fait, tout le scandale des protections hygiéniques, c'était là-dessus. C'était aucun fabricant ne parle de la composition de ses produits. Nous, on le dit, il faut aller dans la fiche produit, tout est écrit noir sur blanc. Donc ça, c'est la partie honnête. Et la partie juste, c'est que pour chaque boîte achetée, effectivement, on donne des produits à des femmes qui sont dans la précarité via notre ONG partenaire qui est Gynécologie Sans Frontières. Donc c'est la contraction de... J-H-O, juste et honnête.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une box aussi avec des tampons bio. C'est oui, en train finalement de bien fonctionner.
Ça commence à s'étendre un peu partout. Là, ça s'appelle Marguerite et compagnie, que vous connaissez. C'est une jeune femme, elle, dans le Finistère, qui a décidé de commercialiser des box de tampons bio sur abonnement. Alors, les tampons dans Marguerite et compagnie sont fabriqués en Angleterre, mais pour un tarif d'abonnement de 9 euros par mois, livraison comprise. Une box arrive à la maison de 18 tampons, c'est sans engagement et on peut le résilier à tout moment.
Alors justement, puisqu'on parle prix et contenu de la boîte, on peut la faire finalement à la carte, cette boîte. On choisit en fonction des flux, en fonction de ce qui est plus adapté.
Oui, bien sûr. Oui, en fait, justement, au départ, on pensait
à une
box.
Et ça fait varier le prix ?
Non, alors en fait, chaque boîte de jeux sont vendues à 5,90. Donc nous, l'abonnement revient à 5,90 par mois quand on parle d'une boîte comme chez Marguerite, par exemple, pour avoir les mêmes échelles. Mmh. Et donc, chaque boîte est à 5,90, tampons, serviettes et protège-slip. La cliente, toutes les femmes sont différentes, donc bien sûr, chacune a ses habitudes. Donc chacune va choisir si elle souhaite avec ou sans applicateur, que des serviettes, que des tampons. C'est vraiment à la carte. Pareil, on peut modifier son abonnement à tout moment, résilier à tout moment. Il n'y a aucun engagement, donc c'est vraiment à la carte. Chaque femme est différente.
Et aujourd'hui, vous avez chaque mois, en tout cas c'est ce que vous dites, 50% d'abonnés en plus. Ça, c'est un vrai succès.
Oui. En fait, on a beaucoup, beaucoup appris de nos clientes. Donc on s'est lancé en avril. Grâce au lancement, c'était chouette, c'était bien parti. Mais en fait, on a toujours gardé cette communication avec nos clientes en se disant « Ok, très bien, ça leur convient. Mais quel est le frein ?» Et le frein, c'était « Moi, je suis hyper fidèle à ma marque depuis que je suis adolescente. Ok, c'est bien, mais par contre, j'ai besoin de tester. »
Alors justement, Elisabeth, vous dites, je suis fidèle à ma marque depuis que je suis adolescente. Vos clientes, quelle tranche d'âge ? C'est plutôt quelle tranche d'âge ? Quel est le profil ?
C'est difficile de trouver un profil parce qu'on a aussi bien sûr des femmes, on a des papas, on a des grands-mères, on a des papas qui sont hyper conscients de la toxicité des produits dans le commerce, donc ils nous contactent.
Pour leur fiado ?
Oui, et c'est génial. On a des entreprises qui nous commandent des produits pour leurs salariés, donc c'est vraiment très vaste. Bon, bien sûr, notre cœur de cible reste la femme, sans surprise. Mais en fait, finalement, pareil, on se disait aussi que les produits sont un peu plus chers que dans le commerce, mais finalement, des produits sains, on est prête à payer ce prix quand on peut se le permettre, bien sûr. Mais par contre, c'est vraiment une très très large cible.
Ouais, ça m'amène à parler prix. Justement, ça coûte combien en moyenne, Elisabeth, les protections hygiéniques ?
Mais dans la vie d'une femme, la consommation de protections hygiéniques, ça varie entre 5 000 et 7 000 euros, un budget conséquent. Une femme utilise entre 10 000 et 15 000 produits de serviettes hygiéniques, tampons, protège-slip au cours de sa vie. 30% des femmes renoncent à acheter des serviettes et des tampons parce que c'est trop cher. Ça, c'est un chiffre qui vient d'une étude de l'IFOP pour l'association Don Solidaire.
Thomas, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, j'avais une question très pratique par rapport à cette histoire d'abonnement. Moi, à titre perso, je suis abonné pour les brosses à dents bioceptiles qui arrivent tous les mois avec sa petite recharge.
Qu'on a reçu bien, ici.
Voilà, mais qu'on reçoit soit toujours un peu tôt, soit toujours un peu tard. Comment vous faites là si la boîte, elle arrive pour pas qu'elle arrive trop tôt ou trop tard ?
Alors là, on est parti sur un abonnement trimestriel. Parce que comme ça, la cliente, un cycle n'est pas égal à une boîte. Ça, c'est une... Bon, voilà, ça va peut-être de soi, mais pas pour tout le monde. Une boîte n'est pas égale à un cycle. Donc, on a un abonnement trimestriel. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de stock. Donc, les clientes s'abonnent. Elles savent quand va arriver le prochain colis. Si elles se rendent compte que ça va être trop tard, elles nous écrivent un petit mail. On s'occupe de tout. On leur envoie un peu plus tôt. Donc, on n'a jamais eu le cas pour le moment de problème de livraison.
On reste ensemble et on continue à parler des protections pour les femmes aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas imaginer une culotte qu'on porterait spécialement pendant la période des règles ? C'est ce qu'a créé Réjeanne. On découvre ce qu'elle a de spécial dans un instant. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Vous le savez, chaque jour, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez poser vos questions, réagir, nous apporter vos témoignages. Aujourd'hui, nous découvrons les innovations françaises pour les protections intimes et elles sont nombreuses, ces innovations. N'hésitez pas, hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter, Raphaël.
Oui, et c'est vrai que nous sommes nombreuses à ne pas être satisfaites des options qui s'offrent à nous depuis des années quand on arrive dans le rayon des protections intimes. Forte de cette expérience, deux amis ont décidé de se lancer et de lancer leur marque de culottes menstruelles. Elle s'appelle Réjeanne, cette marque. Bonjour Weimerter.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est avec votre amie d'enfance, je crois, Alexandra, qui est née ce projet. Déjà, ado, vous échangiez sur ce sujet ?
Oui, entre filles, on échange souvent sur ces plans protection hygiénique. Donc, c'est vrai. Enfin, nous, on se connaît depuis l'adolescence, Alexandra et moi-même, et c'est vrai que on peut dire que depuis l'adolescence, on n'est pas satisfaite des protections hygiéniques qui existent. On en avait marre de cette charge mentale quand on est au supermarché, de se dire « bon, il m'en reste combien ? Est-ce que j'en rachète ? J'en rachète pas ?» On jetait beaucoup et on trouvait que quand on a nos règles, on n'a pas toujours le même flux et parfois on a juste envie de porter une culotte et d'être confortable.
Alors racontez-moi, parce que entre le moment où vous décidez d'agir et oui, le moment où effectivement le projet prend forme, il se passe du temps, parce que au départ vous n'êtes pas du tout dans ce secteur-là, vous êtes juriste de formation.
On est juriste de formation.
Donc rien à voir.
Rien à voir.
Alors comment vous faites pour inventer cette culotte menstruelle ?
Alors c'est en janvier 2017. Alexandra et moi-même, on est en congé maternité. On a du temps pour réfléchir et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit non mais quand même, il y a quelque chose à faire parce que la culotte menstruelle, on pourrait faire quelque chose de confortable et joli. Et donc, c'était vraiment en janvier 2017, le point culminant, on est en congé maternité, on se dit on va la faire. Et avant tout, Alexandra et moi-même, on l'a faite pour nous. Donc, on a une très bonne amie architecte passionnée de couture, donc ça a commencé chez elle. Et c'est là on a commencé à réfléchir quelle matière était confortable, quelle matière était efficace pour absorber le sang, anti-fuite. Et on a travaillé au fil des prototypes avec deux contraintes. Il fallait qu'elle soit efficace et jolie en même temps. Et toute cette phase de R&D a duré elle a duré un an. C'était en janvier 2017 et de janvier 2017 à janvier 2018, on prototype.
Oui, parce que ça existe ailleurs, mais vous ne voulez pas faire exactement la même chose. Ça existe dans d'autres pays.
Ça existe dans d'autres pays.
Donc, qu'est-ce qu'il a de spécial, votre produit, à vous ?
On a travaillé.
Parce que vous l'avez breveté.
On l'a breveté en janvier 2018 et c'est pour ça que notre projet est resté secret pendant un an. On a notre assemblage à nous. On a voulu faire un minimum de couture à l'intérieur de la culotte. On voulait qu'elle soit totalement invisible de l'extérieur parce que souvent, les culottes menstruelles, on a une très grande couture au niveau des fesses. Ouais. Donc, on a voulu vraiment quelque chose d'invisible de l'extérieur, minimum de couture à l'intérieur et réfléchir vraiment à l'assemblage pour qu'il soit le plus efficace possible dans l'utilisation des différentes matières. Donc, ça nous a pris un an.
Et vous avez mis des matières en particulier pour absorber justement.
Oui.
Vous avez dû réfléchir beaucoup sur le produit que vous souhaitiez pour que ça soit justement assez neutre, assez sain.
Oui, on a beaucoup réfléchi et pendant cette longue période de un an, on était en contact avec des experts tissus. Donc je pense qu'on a eu sous la main tous les tissus un par un. Après, les expériences sont très empiriques. On prend le tissu, on voit comment il fonctionne. On écarte les tissus qui font l'objet de trempage où on n'a pas forcément obtenu de réponse sur dans quoi le tissu était trempé pour être efficace. On a écarté tout ça et on a un an pour trouver les meilleurs tissus, les plus sains et non traités.
Je précise quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le système, il faut évidemment, une fois que les règles sont passées, prendre la culotte et la laver quotidiennement pour pouvoir avoir évidemment une culotte propre et rechanger le système. Quoi.
C'est ça. Elle est lavable et réutilisable.
Alors, une question peut-être de notre coach sur ce nouveau système.
Oui, les tampons, les serviettes, c'est vraiment le royaume du jetable, en quelque sorte. C'est vraiment un produit de consommation énorme avec la moitié de la population qui est concernée pendant des années. Et on trouve ça d'ailleurs en supermarché, ça va de pair en quelque sorte. Comment est distribué ? Vous sortez de ça en fait ? Vous sortez de cette logique de consommation jetable ?
Oui.
Comment vous êtes distribué du coup pour ces produits non jetables ?
Alors, on vient tout juste de se lancer. On a fait un crowdfunding en octobre 2018. Donc, pour le moment, pour le lancement, on est en pré-vente.
On a 7574 culottes.
Oui, 7574 culottes pré-vendues sur la plateforme Ulule. Premier projet entrepreneuriat féminin sur Ulule.
Elle coûte combien ?
Sur l'e-shop, le premier prix est à 30 euros. Pour la culotte.
Et vous les vendez par lot aussi, hein, par lot, un peu moins cher du coup, 60 euros, c'est ça ?
Oui, c'est ça, la moins chère c'est en lot, donc c'est deux culottes à 60 euros.
Et c'est la même culotte pour toutes les femmes, peu importe le flux, peu importe est-ce qu'il y a des culottes qui s'adaptent ?
On a plusieurs modèles, on a plusieurs modèles flux léger ou moyen abondant.
Ah oui, d'accord, on achète la culotte qui correspond.
Effectivement. D'accord.
Vous dites que c'est plus économique que le budget, justement, dont on parlait tout à l'heure, de protection ?
Oui, ça permet de faire des économies. Comme vous l'avez dit, les protections dans la vie d'une femme, c'est 5 à 7 000 euros. Alors, j'ai mes petits chiffres ici, parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Mais alors, si je suis très optimiste et que je dépense en moyenne entre 4 et 5 euros par mois pour des protections périodiques, donc ça fait à peu près entre 260 et 325 euros sur 5 ans. Et nos culottes, un pack de deux, ça coûte 60 euros.
Et la
durée de vie, c'est aussi
long.
C'est lavable, réutilisable et durée de vie aussi longue qu'une culotte normale.
On reste ensemble. On continue à regarder quelles sont les initiatives inventées par des Français pour nous aider à mieux nous protéger, nous, les Françaises. À tout de suite.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et je sais que vous l'attendez, vous êtes nombreux à nous écrire déjà sur Twitter à ce propos. De plus en plus de femmes optent pour un nouveau modèle de protection. Il s'agit de la Cup, c'est le credo de Théolab qui a créé l'Unéal. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, nous intéressons aux innovations pour les protections intimes. Elles sont nombreuses, ces innovations, et elles sont toutes bleues, blanc, rouge. Elles sont toutes françaises. Vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous apporter vos témoignages, vos questions. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au standard Europe 1, le 39-21, 50 centimes, la minute Raphaël.
Et c'est en 2014 que deux voisins et amis en recherche de projet vont avoir, vous allez voir, une bonne idée, celle de lancer une marque française, effectivement, de Cup. Bonjour Thomas Rossé.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur de Théolab. Il y a 5 ans, avec Léo Caddy, c'est ça votre associé, vous découvrez le système de Cup. Elle vous en parle, je crois, parce que vous êtes en train de chercher un projet entrepreneurial à monter.
Absolument. Et je découvre, grâce à Léo Caddy, la Cup, qui, à un moment de l'existence, apporte énormément d'avantages, parce que telle que c'est présentée, elle est saine pour le corps, elle est durable pour l'environnement, et on en parlait tout à l'heure, elle est économique. Et donc, ça, c'est un faisceau d'avantages qui permet à la Cup de se développer depuis quelques années.
Alors, la Cup, tout le monde ne connaît pas ce que c'est. On va peut-être expliquer et décrire. Ceux qui sont avec nous, évidemment, sur Europe1.fr, la voir hein, cette cup, c'est une petite coupe.
Absolument, c'est un petit récipient qui est fabriqué en silicone la plupart du temps. Ça peut être fabriqué aussi en élastomère, que les femmes plient, insèrent dans le vagin, qui va recueillir le flux et qui va ne recueillir que le flux, et qui est vidé au fil de l'usage, c'est-à-dire assez régulièrement en fonction du flux et en fonction de la taille de la cup qui est choisie. L'avantage de la cup, c'est qu'elle peut durer jusqu'à 5 ans.
Et alors à l'époque, quand vous commencez à vous intéresser à ce projet, vous vous rendez compte que ici en France, c'est quand même assez confidentiel.
Alors c'est très confidentiel en 2014 quand on démarre, mais on sent qu'il y a de plus en plus d'occurrences sur le sujet de la coupe menstruelle.
C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on regarde, je crois que le brevet, il date des années 30, c'est ça ?
Oui, le premier brevet de la cup date de 1932, c'est-à-dire que le premier brevet pour la cup a été posé avant le brevet pour les tampons. Mais les 30 glorieuses, la bascule de l'industrie du coton aux États-Unis fait qu'on a besoin de trouver des débouchés et que le coton à usage jetable, à usage unique, représente un débouché formidable et la cup est restée invisible pendant toutes ces années.
Alors vous vous dites, il y a une manière de faire évidemment évoluer les choses ici chez nous en France. Vous organisez des ateliers, je crois, pour voir ce qui a changé dans le modèle rapport à ce qui se fait ailleurs.
Oui, on se rend compte, au fait, en faisant notre petite étude en 2014, de plusieurs choses. La première, c'est que des études cliniques qui ont été menées sur les cups prouvent que plus de 9 femmes sur 10 qui ont essayé la cup plus d'un cycle arrête les tampons et les serviettes. Donc ça, c'est quand même assez phénoménal comme information. Et puis, on se rend compte que le nombre de marques de cups se multiplie partout dans le monde, sur tous les continents, mais que toutes ces marques ne font que reproduire le brevet initial de 1932. Donc, notre idée est de faire différemment. Et pour faire différemment, on réunit des sages-femmes qui sont très militantes sur le sujet de la cup. On réunit des utilisatrices pour essayer de comprendre de quelle manière on peut optimiser l'usage de la cup. Et puis, en travaillant avec un ergonome et un bureau de design, au fait, on décide de supprimer la tige de la cup.
Qui permet de retirer la...
Alors, la tige sert à guider les doigts pour pincer la cup. Il faut bien pincer la cup pour la retirer. Donc, la tige ne sert qu'à guider les doigts. Et énormément d'utilisatrices, qu'on appelle les cupeuses, décident de couper la tige parce qu'elles les gênent en fonction de la hauteur à laquelle elles portent leur cup. Donc, plutôt que de fabriquer une cup avec une tige qu'on retire, on a décidé de fabriquer une cup sans tige, mais avec une zone bien marquée pour pouvoir la retirer facilement.
Les premiers modèles sortent en 2015. C'est ça, en pharmacie, d'abord.
Les premiers modèles sortent en 2015. Nous décidons de nous distribuer en pharmacie exclusivement pour deux raisons évidentes. La première, c'est qu'il y a 22 000 pharmacies en France, donc on a une couverture territoriale qui est très importante. Et les pharmacies sont en mesure de délivrer du conseil. Et pour faire connaître un dispositif émergent comme la cup menstruelle en 2015, il faut s'appuyer sur du conseil.
Elisabeth, il y a énormément d'initiatives. On ne peut pas évidemment toutes les citer, mais je crois que vous en avez trouvé pas mal en France, un petit peu partout.
Oui, pour toutes ces femmes qui ont du mal à boucler les fins de mois et donc investir dans des protections intimes, c'est encore plus cher. Par exemple, vous avez une collecte de protection périodique qui a débuté à Caen pendant toute la durée du mois de mars. Des boîtes de dons sont mises à la disposition des femmes pour alléger ce budget. La collecte s'appelle Collecte sans SANG stationnelle. C'est l'association Assureps qui est à l'initiative de cette collecte. À Bergerac aussi, une collecte est organisée depuis le 20 mars. On peut trouver des boîtes à dons sur le campus de l'université de Strasbourg ainsi qu'à Sciences Po.
Thomas Rosset, vous êtes engagé avec une association, entre autres, j'ai envie de dire, parce que vous faites beaucoup de choses, mais avec Règles élémentaires.
Absolument. Règles élémentaires, on en a entendu parler depuis le lancement de notre projet. C'est une super assoce qui décide d'aider les femmes qui sont défavorisées en leur fournissant des protections périodiques. La première fois qu'on les a abordées, on voulait leur donner des cups. Et en réalité, le fait qu'une partie des femmes soit dans la rue, elles ne pouvaient pas forcément utiliser une cup facilement. Et du coup, on a contourné le truc en disant à toutes les utilisatrices, à toutes nos clientes qui achetaient des cups lunéales, envoyez-nous vos protections périodiques jetables, puisque vous ne les utiliserez plus, et nous allons les transmettre à Règles élémentaires. Et donc, il se trouve que dans notre petit bureau, nous sommes 7 personnes, et nous avons des paquets de tampons et de serviettes, plus qu'on peut l'imaginer.
Thomas, une question pour Thomas.
Oui, pour Thomas, tout à fait. Déjà, je voulais saluer et remercier Thomas, parce qu'on salue et on remercie tout le temps les femmes qui entreprennent sur des sujets a priori masculins. Mmh. Et là, pour une fois, c'est l'inverse. Et je trouve que faire ça il y a 4, 5, 6 ans, je trouve ça chouette, vraiment.
Vous avez raison.
Et le deuxième sujet qui m'interrogeait plus, c'est comment on en vient à innover, vous qui n'êtes pas utilisateur finalement de la cup, par où vous commencez, la volonté d'innover ou par des femmes qui vous remontent une problématique particulière?
Non, l'idée première est vraiment entrepreneuriale, c'est-à-dire on est sur un marché dont on sait qu'il va exploser, on en est persuadé, tous les voyants sont au vert, et dans ce marché avec tout un tas de marques, si on veut exister, il faut se différencier. Donc l'idée de l'innovation, elle vient de là. Et puis en parallèle, bon, ça se fait pas de manière binaire, mais en parallèle, les échanges qu'on a pu avoir aussi bien avec les utilisatrices que les sages-femmes nous ont vraiment encouragés dans cette innovation. Il y avait toujours, même une fois le brevet déposé, une interrogation sur le fait que ça corresponde au fait aux besoins qu'en avaient les femmes. Donc on a pris ce risque énorme de se lancer dans le dépôt d'un brevet sans avoir encore les tests qui nous permettent de valider notre modèle. Donc c'était un petit risque, mais c'était absolument évident qu'il fallait qu'on fasse comme ça.
On continue à parler des règles et des protections pour les femmes dans un instant sur Europe 1.
Tout de suite. 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On vous attend bien sûr 39-21 à vous de venir témoigner et poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge, c'est sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités jusqu'à 14h. Chaque jour, nous découvrons ce qui fait avancer la France. Aujourd'hui, des innovations dans le domaine des protections intimes. Elles sont françaises, ces innovations. Vous pouvez les découvrir en nous suivant aussi en vidéo sur Europe1.fr aujourd'hui. Et vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, Twitter, hashtag Europe 1 et le 3921, c'est le standard, Raphaël.
Oui, notre coach aujourd'hui, c'est Thomas Huriez, fondateur des Jeans 1083. Elisabeth est là, évidemment. Et nous sommes avec Colline Mazera, cofondatrice de JHO, gamme de protection hygiénique bio qui veut dire juste et honnête. Y Mortar, qui est cofondatrice de Réjeanne, les culottes menstruelles. Et Thomas Rosset, président et cofondateur de Théolab, qui commercialise la cup lunéale. J'avais une question pour vous, Thomas, parce que je disais tout à l'heure que vous étiez investi dans beaucoup de choses. Hein. On a parlé de règles élémentaires. Vous êtes aussi en train de travailler avec les femmes en prison parce que vous avez été sensibilisée. Il y a eu un article qui est sorti dans la presse et il y a énormément de femmes qui coupent les bouteilles aujourd'hui pour...
Oui, plus que sensibilisées, au fait, choquées. Parce que c'est un sujet auquel on ne pense jamais. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le silence le plus complet, que ce sont des femmes qui sont aussi dans le besoin et que, au fait, les solutions alternatives qu'elles ont inventées, donc félicitons la créativité, mais il y a quand même de quoi ne pas être fier en tant qu'humain en Occident aujourd'hui de considérer que des femmes sont obligées de couper des bouteilles en plastique, de se blesser finalement pour gérer cette situation-là. Et donc, on a décidé de s'engager immédiatement. On a pris contact avec l'administration pénitentiaire dans la foulée, et on essaie d'avancer pour pouvoir proposer des choses dès le mois d'avril auprès des personnes qui sont en prison.
Et vous faites aussi un gros travail, je crois, avec l'Afrique.
Absolument. On a croisé le chemin d'une association qui s'appelle Cup It Up, qui est une association d'étudiants à Créteil en économie solidaire, et qui, dans le cadre de leur projet d'études, ont décidé de faire découvrir la coupe menstruelle, la cup, dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a des initiatives qui existent déjà en Afrique de l'Est, notamment avec une association géniale, une ONG qui s'appelle Femmes Internationales. Et ils ont décidé de reproduire le sujet en Afrique de l'Ouest, de mener des ateliers, des workshops pour faire connaître, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et il nous a paru absolument évident de nous engager dans cette voie-là, de fournir des cups, de fournir un support tant qu'on pouvait sur ce sujet-là.
Colline, Y, question peut-être pour toutes les deux. Comment est-ce que vous avez été accueillies avec vos nouveaux produits, notamment par les grandes marques? Elles sont intéressées? Elles vous ont contacté? Elles vous regardent avec une certaine défiance? Colline, peut-être?
Défiance, peut-être pas. Non, en fait, pour le moment, c'est plutôt la grande distribution qui est hyper intéressée. Le côté aussi juste et honnête de notre marque et notre positionnement. Mais les grands groupes, pas vraiment.
Ouais.
Pour Réjeanne, nous avons été contactés par des magasins bio spécialisés, mais des chaînes, donc on va mettre ça en place. Donc oui, on a été contactés.
Ouais, vous êtes en train de
oui, on est en train de
commencer à imaginer la suite, la distribution.
Oui, on imagine bien la cup, le tampon et la petite culotte Réjeanne.
Oui, on voit bien. Je crois qu'on a une question oui, ou un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
On a une question de Marc qui nous écrit, dit « Quand on est un homme comme moi, pas macho au demeurant, est-il normal d'être perdu quand on doit acheter des protections pour sa femme ?» En gros, est-ce qu'il en aurait pas
trop ? Sa fille
trop,
d'ailleurs.
Ou sa fille, oui.
Bah, l'avantage, c'est que toutes Colline, les femmes sont différentes, donc tant mieux Marc, vous avez beaucoup beaucoup de possibilités entre la cup, la culotte et les protections lavables et jetables. Vous avez, c'est juste, prenez le temps de demander à votre femme, votre fille, mais oui.
C'est un sujet tabou ou pas encore, moins qu'avant, non?
Nous, en tout cas, en tant que deux femmes, on se disait on va avoir plein de questions, on a fait une levée de fonds, donc on s'est dit oh là là, les questions qu'on va avoir, et en fait pas du tout, les hommes sont hyper, hommes et femmes... Peut-être qu'il y a un clivage générationnel encore. Oui, oui. Il y a peut-être encore certains hommes d'un certain âge ne souhaitent pas du tout en parler. Mais par contre, non, on a eu pas mal de questions et justement de papa, encore une fois. Donc,
Thomas ?
Oui, mais moi je suis d'accord. Hein, je vois pas le... Pour moi, ce n'est pas un sujet qui est réservé aux femmes. Bien sûr, physiquement, on n'a pas
à
assumer ça.
C'est bien pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui.
Je vous remercie.
Vous nous connaissez.
Tout à fait.
On est taquine. Thomas Rosset, vous avez eu, vous, des questions quand vous êtes arrivé sur ce marché? On vous a regardé avec un œil différent parce que vous étiez un homme, justement, ou pas du tout?
Mais non. Au fait, moi, je me regardais avec un... Je me demandais si j'étais légitime à me lancer dans un projet comme ça. Et le fait, très vite, d'entamer des échanges avec des sages-femmes et avec des utilisatrices, en fait, m'a remis sur pied, m'a remis d'aplomb. Moi, je pense aujourd'hui que c'est une richesse pour notre société d'être un homme et une femme pour la diriger, parce que ça fait deux points de vue qui, je pense, sont complémentaires.
Ouais.
Et honnêtement, on en parlait tout à l'heure avant de préparer, en préparant l'émission. Honnêtement, aujourd'hui, je trouve que le sujet des règles devient un sujet consensuel. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre le sujet sur la table et vous verrez que la parole se délie, que des hommes dont on soupçonnait qu'ils n'avaient absolument aucune idée du sujet finissent par avoir des idées intéressantes, connaissent un petit peu mieux le marché, connaissent l'innovation, etc. Et que finalement, ce sujet dont on pense, quand on ne veut pas l'aborder, qui divise, est un sujet qui rapproche.
Justement, ça rapproche et on en parle même de plus en plus, oui, y compris dans les entreprises, Elisabeth.
Dans le milieu de l'entreprise, les règles, ça c'est extraordinaire. Par exemple, chez Google, chez Procter & Gamble, Bumble ou encore Sarenza, des tampons, des serviettes hygiéniques sont mis à disposition gratuitement dans les toilettes des femmes. Sarenza, c'est 64% de femmes. Donc voilà, ils envisagent même prochainement de proposer des tampons bio. Il y en a encore trop peu dans les entreprises françaises. Les tampons bio, c'est vous évidemment. Et il y a un sondage qui a été fait là, il y a quelques jours qui montre que 70% des femmes interrogées sont favorables à ce qu'il y ait davantage de protections intimes à l'intérieur de leur entreprise.
Eh bien oui, voilà. Mesdames, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes chef d'entreprise. Merci à tous les trois d'être venus participer à ce débat aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous restez avec nous, bien sûr, dans deux minutes. Une entreprise familiale, mais qui se définit comme une start-up du cognac, la Maison Camus, et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, vous écoutez Raphaël Duchemin et ses invités qui vous présentent une France qui bouge. Et dans cette France qui bouge, il y a des entreprises qui vont bien. Celle d'aujourd'hui, c'est une très célèbre maison familiale, Raphaël.
Oui, et elle date de 1863. Bonjour Cyril Camus.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la seule maison de cognac familiale en France aujourd'hui. Les autres ont quasiment tout était absorbé. Qu'est-ce qui se passe?
On est la dernière grande maison familiale. De cognac, tout à fait, à être encore donc maison entièrement familiale, aussi bien par son actionnariat que son management, sa direction.
Cinq générations, alors si je ne me trompe pas, c'est votre arrière-grand-père qui a décidé de passer des partenariats avec d'autres viticulteurs. Il l'était lui-même, mais à l'époque, il vendait, je crois, son cognac aux négociants. C'est comme ça que tout démarre.
Tout à fait. C'est un petit peu pour ça qu'on a, nous aussi, démarré finalement 150 ans après la plupart de nos grands confrères. Hein, dans le top 5 des cognacs, nous sommes les seuls à avoir démarré à l'époque, fin du 19e siècle. Nous étions viticulteurs. On fournissait effectivement ceux qui sont aujourd'hui nos concurrents, jusqu'à ce que mon arrière-grand-père décide de vendre ce cognac indépendamment. Il s'est associé à quelques autres viticulteurs.
Jean-Baptiste
Camus, exactement.
1888. Et alors, qu'est-ce qui lui donne cette idée-là? Pourquoi est-ce qu'il a envie de changer de modèle?
Volonté d'indépendance, volonté de valoriser son produit, son savoir-faire, sans passer par des intermédiaires qui, eux, ne respectaient pas forcément toujours ce travail-là. Donc, c'est cette volonté d'indépendance qui, finalement, est restée une des valeurs principales, si ce n'est la valeur principale de notre entreprise.
Il a du nez, hein, si j'ose dire, parce qu'il appelle déjà ça la grande marque. Ça veut dire qu'il sent que les choses vont évoluer et favorablement.
Tout à fait, c'est quelqu'un qui avait pas mal d'ambition. Ils étaient plusieurs partenaires. Ils ont créé cette société, cette marque qui s'est appelée La Grande Marque. Et aujourd'hui, la société s'appelle toujours Camus, La Grande Marque. Notre raison sociale, c'est toujours Camus, La Grande Marque. Et j'espère que le futur lui donnera raison.
Hein. Ouais, c'était assez bien vu parce que vous exportez très vite, notamment vers la Russie, la cour de Russie, les tsars. Vous allez aussi en Angleterre. C'est déjà un nom, c'est déjà une renommée là. La maison Camus à l'époque.
Oui, dès le début, nous avons commencé avec l'export et avec le haut de gamme. C'est en fait la seule place qui est libre hein, pour un challenger dans un marché déjà établi. C'est de commencer avec des produits peut-être un peu plus haut de gamme et aller là où les autres ne sont pas forcément. Donc ça a été la Russie à l'époque. L'époque de mon grand-père, ça a été l'Asie. Vers l'Asie. Et aujourd'hui, c'est une activité qui couvre l'ensemble du monde. On vend dans plus de 140 pays aujourd'hui.
Vous avez très tôt aussi signé un partenariat, c'est important, avec Baccarat pour montrer justement qu'on était dans le haut de gamme, dans le luxe à la française.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la partie assez innovante et innovatrice de notre entreprise. À chaque génération, finalement, on a appris à présenter notre cognac, à le mettre à disposition dans des contenants et avec un style qui soit tout à fait contemporain. Donc, réinventer la marque à chaque fois, réinventer la présentation des produits et associer souvent plusieurs types de luxe, plusieurs types de procédés ou de marques qui inspirent le luxe français. Oui.
Justement, vous êtes plus cher, mais c'est quelque chose que vous assumez totalement. Ça ne vous empêche pas d'ailleurs de vendre encore, de faire de la vente directe. On peut venir vous voir.
Oui, tout à fait. On est favorable à l'ensemble des canaux de distribution. On va distribuer aussi bien en ligne qu'avec le retail traditionnel. Et vous pouvez effectivement, et je vous le recommande, venir nous visiter à Cognac.
Que dit notre coach, Thomas?
Alors déjà, je suis assez étonné par le côté précurseur au niveau marketing. Ouais. de l'arrière-arrière-grand-père. Donc félicitations à lui. Quand je me suis intéressé au cognac, j'ai découvert que 98% de la production française était exportée. Qu'est-ce qui explique que cette boisson si française, elle soit si peu consommée des Français par rapport au reste du monde ?
Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que le cognac ne soit pas consommé par les Français, mais le cognac, dès son origine, a été un produit tourné vers l'export. C'est un produit qui était vendu dans l'Empire anglais, belge, hollandais et français à travers le monde. Ça a été en fait le premier alcool à être commercialisé partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est un produit qui a du succès partout, y compris en France. En France, la France, ça reste le quatrième marché du cognac. Mais c'est vrai, regardez simplement la Maison Camus, 140 pays exportés. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui ait une part de marché finalement si conséquente que ça.
Cyril Camus, vous êtes en Chine. Vous êtes président de la maison, mais vous êtes basé là-bas. Pourquoi ? Parce que là-bas, vous sentez justement les choses bouger, les tendances qui se dessinent ?
Tout à fait. Alors la Chine, c'est devenu pour nous notre premier marché. C'est le second marché du cognac aujourd'hui, un marché qui se développe très vite, très fortement. C'est pour moi non seulement une opportunité professionnel pour la commercialisation de cognac actuellement, mais c'est aussi
votre père qui vous a obligé à
tout à fait, c'est mon père qui m'a incité à prendre le chinois et voilà, bon endroit, bon moment, et on a pu profiter comme ça de l'embellie de ce marché, mais qui est aujourd'hui devenu vraiment un terrain d'apprentissage et d'observation pour nous sur toutes les nouvelles techniques de commercialisation et en particulier l'intégration du online avec l'offline.
Thomas,
votre père vous a envoyé en Chine. Si vous avez des enfants, où est-ce que vous les enverrez pour la prochaine génération ?
Mes enfants ont grandi en partie en France, en partie en Chine, aujourd'hui aux États-Unis, donc ils sont à l'exemple de la maison, complètement internationaux. Ouais.
On dit cognac, il y a plusieurs cognacs. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait un bon cognac ? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître pour vous, par exemple ?
Le cognac est une appellation contrôlée, comme la plupart ou toutes les appellations contrôlées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais cognac. Tous les cognacs sont bons, mais chaque maison va avoir un style un petit peu distinctif.
Alors, où irait votre préférence ?
C'est toujours les cognacs floraux. On croit beaucoup à l'aspect floral, le fruit frais de nos cognacs et l'intensité aromatique de nos cognacs. Aujourd'hui, on a un profil que l'on a perfectionné, je dirais, à travers les générations. Qui culmine aujourd'hui vers des choses intensément aromatiques.
C'est la maison Camus. Merci d'être venu de Chine, Cyril Camus, pour nous en parler, nous la faire découvrir. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va s'intéresser aux enfants. Comment les faire aller à leur cours de danse, mais sans les parents, vous voulez les mettre dans une voiture ? C'est possible. Ce sont des mamans qui ont inventé Upways. C'est la solution. À tout de suite. La France bouge sur Europe 1, tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël, vous nous proposez la solution du jour et attention, les parents qui nous écoutent vont peut-être découvrir la solution miracle à leur quotidien.
Oui, vous êtes parents et vous avez envie d'envoyer vos enfants et de ne pas jouer les chauffeurs, de prendre un taxi, les allers-retours pour les activités extrascolaires. C'est vrai que c'est long et fastidieux, ça prend du temps. Eh bien, une solution est née, Elisabeth, elle s'appelle Upway.
Oui, c'est un service de transport qui met en relation les parents d'un même quartier et ce service leur offre la possibilité de mutualiser les trajets pour accompagner les enfants au sport, au foot, à la piscine, dans toutes les activités extrascolaires. Et donc, on récupère un temps très précieux parce que parfois, on peut passer plus d'une heure, même deux heures en voiture, seulement pour effectuer ces allers-retours. Des dépassements qui peuvent se faire en voiture, mais aussi en métro ou à trottinette, c'est un abonnement qui vous permet la mise en relation avec les autres parents. L'avantage de ce service, c'est que l'enfant n'est pas confié à un inconnu, mais à un autre parent. Et en plus de ce service, Upways propose depuis quelque temps un service de chauffeur, tous sélectionnés par les mamans qui sont formées à l'accompagnement d'enfants à partir de 3 ans. Comptez environ 30€ pour une course individuelle, 18€ pour du covoiturage. Il y a aussi des accompagnements à pied qui sont proposés. Bref, tout est possible. Il suffit de contacter donc Upways.
On va en savoir plus avec vous, Marietta Gourgue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice du réseau Upways, maman évidemment. Une idée basée sur votre expérience ?
Mais oui, j'ai 3 enfants avec mes 2 cofondatrices qui ont aussi 3 enfants chacune. On voyait qu'on ne peut plus faire maman taxi tous les mercredis, oui. Surtout quand on travaille. C'est une casse-tête pour toutes les familles.
Et donc
ça a été compliqué. Et alors, vous avez mis en place Upways. Alors, ça fonctionne partout en France ?
Ça fonctionne dans les grandes villes.
Alors, comment ça marche ?
Ça marche. Alors, le covoiturage, ça marche très facilement sur notre site. Vous allez vous inscrire et mettre vos adresses et vos horaires. Et les chauffeurs, c'est nous qui les mettons en place. On a un réseau de chauffeurs, de 60 chauffeurs aujourd'hui. C'est tous des chauffeurs testés, approuvés. On les connaît tous personnellement. Ils ont signé une charte et un contrat de coopération avec nous. On a tous leurs papiers et on les suit de près. Et on essaye de... Quand on met en place une course pour une famille, c'est normalement des courses régulières, tous les mercredis, tous les matins pour aller à l'école. Et on essaie que ce soit toujours le même chauffeur pour la même famille.
Mais vous les sélectionnez comment, ces chauffeurs ? Sur quels critères ? Vous n'êtes pas des professionnels de la route, d'une compagnie de chauffeurs. Donc, quels sont vos critères ?
On est trois mamans. Et on sélectionne le chauffeur en fonction si nous amène nos enfants avec eux dans la voiture. Et après, on cherche des profils.
Donc c'est subjectif ?
Oui. Bon, on cherche des profils, c'est des papas, c'est des grands-parents, c'est des anciens ambulanciers, vraiment ceux qui ont une
expérience.
Une expérience et on peut faire confiance à eux. Parce que...
Et vous dites qu'ils sont formés pour des enfants à partir de 3 ans, mais alors vous leur faites passer des tests, c'est quoi la formation pour des enfants à partir de 3 ans?
C'est une formation de sécurité, par exemple, il ne faut jamais laisser l'enfant toute seule. Il faut toujours le chercher à l'école avec une adulte, le poser avec une autre adulte, se garer bien, l'aider à sortir de la voiture, regarder s'il est bien attaché, prendre le sac.
Que dit notre coach de cette initiative de maman ?
J'avais une question par rapport à l'accès aux services. Ouais. C'est aujourd'hui disponible dans les grandes villes. Ouais. Or, dans les grandes villes, on est plus à pied qu'en voiture. Et c'est plutôt dans les villes moyennes et petites villes qu'on a besoin de la voiture. Ouais. Moi, j'habite à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, la capitale de la chaussure. Et je serais bien intéressé par ces services. J'imagine bien que pour trouver des chauffeurs, c'est plus complexe que pour mettre en place un réseau de parents qui s'entraident et qui partagent, qui emmènent leurs enfants les uns les autres. Est-ce que ce service finalement partagé, qui est le service par lequel vous avez commencé, oui. il sera disponible plutôt en province, en quelque sorte dans les petites villes, que le service des chauffeurs qui effectivement oui. mettra plus de
c'est
temps
c'est fait
peut-être.
Pour cela. C'est là où on ne peut pas mettre en place un réseau de chauffeurs. On offre la possibilité de covoiturer avec d'autres parents.
Donc même à Romans, je peux faire la possibilité
de covoiturage. Vous pouvez essayer, oui.
Merci.
Combien de personnes ont d'ores et déjà utilisé votre service ?
Alors, on a lancé ça avec la rentrée 2017 et on a fait 2000 trajets. Mm-hmm. Et maintenant, on fait à peu près 200 trajets par semaine.
Ah oui, 200 trajets par semaine. Commence,
et vous les faites payer tout ça vous,
on le fait payer.
Donc vous arrivez à vous payer aussi grâce à cette plateforme
Et surtout, on essaye de aussi covoiturer les enfants qui sont en taxi pour que ça soit moins cher pour les parents. Et on enlève aussi les voitures de la rue.
Il y a un tarif différent, justement, à Romans-sur-Isère ou à Paris, parce qu'on disait tout à l'heure, hein, Elisabeth, 30 euros pour une course individuelle, 18 pour du covoiturage. Justement, ça peut varier aussi en fonction des... En fonction des villes.
Ça varie en fonction de la fréquence, les kilomètres, bien sûr. Et ça, bien sûr, quand c'est en Provence, ça serait un peu moins cher.
Vous allez peut-être dépasser les frontières. Est-ce que vous avez pensé à l'international ?
On
entend votre accent.
Oui, je suis allemande.
Forcément.
Et j'aimerais bien l'emmener en Allemagne. Mais d'abord, on fait nos tests en France et on verra d'ici comment on peut... externaliser ça.
Ça s'appelle Upways. C'est la solution trouvée aujourd'hui par Elisabeth Assayag. Merci à Thomas qui était notre coach aujourd'hui. Demain, Elisabeth, nous parlerons du fromage parce que devinez quoi ?
Nous allons nous régaler.
C'est la journée nationale du fromage et là aussi, les choses bougent. À demain.
À demain, Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelatte et ses incroyables récits. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire extraordinaire d'une petite Française qui s'appelle Baïa Bakary et qui en 2009 a pris l'avion pour les Comores. Son avion s'est écrasé en mer et elle a survécu.
L'histoire de Baïa, la miraculée du crash de Yemena Airways, c'est dans un instant sur Europe 1 et c'est le programme de Christophe Ondelatte à partir de 14h.